Pour terminer donc, je termine sur cette cinquième séance. Et vu les conditions, hein, donc on va, ça va être, comment dire, on s'est bien déjà rencontrés, j'ai beaucoup parlé, donc on se verra plutôt individuellement et en couple. Voilà. Donc cinquième séance, le sacrement de mariage, chemin de prière. Alors, puisque nous allons aborder cette question, nous avons vu la dernière fois qu'en psychologie fondamentale, traditionnelle, nous sommes sans manichéisme, hein, sans caricature, sans blanc et noir, mais avec quand même une profonde, de profondes racines dans l'âme humaine. C'est nous jugeons en permanence notre intelligence intelligere, hein, c'est legere inter, c'est lire à l'intérieur. Donc nous comprenons pourquoi un moteur chauffe. Et si on ne comprend pas tout de suite, on nous le fait expliquer, mais on veut savoir pourquoi le capot est chaud. Hein, les pistons ont frotté, même malgré l'huile, le moteur est chaud. Le chat, lui, ne comprendra jamais l'échauffement des pistons. Et il s'en moque, mais vous ne pouvez même pas savoir. Et ça l'intrigue peut-être, en tout cas il recherche la chaleur de la voiture qui rentre au garage. Ses maîtres laissent la voiture, montent, et lui va se mettre sur le capot. Oui. Vous avez des chats aussi qui ont repéré une chaudière d'appartement, et qui vont se mettre plutôt du côté de la chaudière. Voilà. Mais est-ce que, à savoir pourquoi une résistance chauffe l'eau, ils s'en moquent complètement. Nous lisons à l'intérieur des choses, nous voulons savoir, et surtout, nous avons, au-delà de du constat, nous avons une volonté d'aller vers ce que l'on a compris, vers l'objet. Objet, c'est ob, devant, hein. J'ai, ce qui est jeté devant nous. Un objet, c'est, voilà, je suis là, et puis tout d'un coup, on me met ça devant mes yeux. C'est un objet. Et je l'analyse immédiatement. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ouais. On me met ça devant les yeux, je dis, ah, oh, malaise. Voilà. Voilà, je suis tout content, j'ai trouvé, et je vais pouvoir sortir. Voilà. Et donc, si vous voulez, mais je comprends tout de suite les heures que j'ai passées dessus, les messages que j'ai lus. Tandis que si je mets ça devant un chien, dans un premier temps, il va le renifler. Sert à quoi? Je le pisse dessus, tout ça. Pardon. Donc, voilà, le chien, lui, il est dans l'instinct. Nous, on est dans la compréhension. Et ensuite, dans l'émotion et la passion. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous? Mais tout, voyez. Regardez vos cheveux. Hein, vous n'avez pas de miroir. En ce moment, vous ne savez pas où en sont vos cheveux. Ils sont bien coiffés, ils sont mal coiffés. C'est parti le matin, et puis voilà. Si vous avez trouvé un miroir entre-temps, vous avez pu un peu regarder. Voyez. Mais les animaux ne se peignent pas. Vous allez me dire, si, ils se lèchent. Oui, mais bon, c'est pas original, ils ne se font pas une coupe. Vous voyez ? Le chat, quand il se lèche dans le sens de son poil, et puis voilà, il se lave. Mais il ne se voit pas, il ne se mire pas. Et nous analysons nos cheveux. Tous les matins. Je dis, tiens, ils sont comme ci, ils sont comme ça, je vais les peigner comme ci, je vais les peigner comme ça, je vais peut-être changer de coiffure un jour ou pas. Tiens, il y en a qui sont tombés, tiens, il y en a qui deviennent blancs, tiens, il y a ceci, il y a cela, et voilà. On regarde et on analyse tout le temps. On choisit ses vêtements. Tiens, je prends ça ce matin, je prends ceci, il est vieux, il n'est pas vieux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. C'est des appréciations permanentes. Vous voyez votre fiancé, il dit, tiens, il s'est bien coiffé, tiens, il s'est bien habillé, tiens, il s'est mal habillé, tiens, il a le teint, il n'a pas le teint frais, voilà, il a de la fièvre, il tousse, voilà. Et pourvu qu'il soit guéri pour le jour du mariage, on va aller à la salpêtrière, voilà. Mais c'est tout. Votre montre, un bracelet, ces tables, les murs, voilà. C'est les cintres qui sont disparates, voilà. À tout moment, on regarde et on juge. Et donc, ça fait la nature humaine profonde. Ensuite, ça suffit pas de comprendre. Il faut vouloir être attiré. Ou être, au contraire, avoir de la répulsion. Et c'est la volonté. Et plus particulièrement dans la volonté, aller vers l'objet qu'on a reconnu comme bon pour nous, ou partir de l'objet qui est mauvais pour nous. La liberté entre l'intelligence et la volonté nous permet de choisir entre différents biens plus ou moins importants. Si on vous présente comment dire, une voiture, vous allez apprécier son utilité, sa beauté, sa couleur, ses options. Si on vous présente une montre, si on vous présente un smartphone, si on vous présente un appartement, si vous visitez 5 appartements, eh bien, un appartement, c'est un appartement. Donc, il est bon en soi d'avoir un toit. Donc ils sont tous bons, mais il y en a qui sont plus ou moins bons. Et si leur bonté est égale, eh bien votre liberté choisira. Et la liberté, c'est ce qui nous permet de nous mouvoir dans le bien, et dans des biens équivalents. C'est ça la liberté, c'est la capacité de se mouvoir dans le bien. Lorsqu'on dit, moi je suis libre, je fais ce que je veux, si je veux me scarifier, si je veux me, comment dire, si je veux me droguer, je suis libre. C'est faux. Vous n'êtes pas libre de faire le mal. Vous n'êtes pas libre de vous faire du mal. Vous n'êtes pas libre de vous droguer, figurez-vous. Parce que la drogue vous va à l'encontre de votre nature qui est d'être compossui, en latin, se posséder, savoir ce qu'on fait, ne pas être confus, ne pas altérer notre conscience, notre équilibre, notre bon sens. Tout ce qui va à l'encontre de notre santé est mauvais. Alors vous dites, oh, mais c'est de la morale. Oui. Ah oui, mais c'est pas, y a une différence entre la morale et la loi. Mais c'est quand la morale devient très lourde, on en fait des lois. Mais la frontière entre la loi et la morale, ce sont des distinctions, mais qui sont des distinctions légères à terme. Ah oui, mais non, il y a la sphère privée, tout ça. Mais oui, mais les prêtres sont là pour vous dire, il y a les 10 commandements. Même lorsque la porte est fermée, quand vous faites le mal, vous faites le mal. Oui, mais c'est pas puni par la loi. Oui, mais à un moment donné, justement, le 5e commandement. Ou le septième commandement va être puni par la loi. C'est-à-dire, le 5e commandement, c'est de ne tuera pas l'innocent. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas tuer l'innocent? Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de tuer une autre personne, un bébé par exemple, vous pouvez le tuer. C'est la légitime défense. De vous, du faible. On peut faire la guerre. Jamais. La méchante religion catholique n'a empêché de faire des guerres, bien au contraire, puisque les chrétiens, pendant des siècles, se sont fait des guerres terribles. Mais il y a une seule guerre qui ne soit pas un péché, c'est la guerre juste, c'est la guerre de défense, c'est la guerre de prévention. Eh bien, ce mal, ce bien, chez nous, est plus ou moins évident, mais nous passons notre vie à distinguer entre le bien et le mal. Lorsque dans le 7e commandement, vous prenez un jouet de votre frère ou de votre sœur, C'est un emprunt, c'est un manque de politesse, c'est un manque de courtoisie, c'est un manque de fraternité. Mais c'est pas un vol. Mais le vol, quand il devient lourd, pénible, eh bien, Dieu nous dit, c'est mauvais, hein. Et la loi humaine est d'accord avec Dieu. C'est curieux, un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais la morale, ça n'existe pas, il n'y a ni bien ni mal. Hein, il avait son portable ici, et je lui ai pris son portable, et je l'ai mis dans ma poche. Et vraiment. Voilà. Et on a continué à parler, tout ça, et au bout de 10-15 minutes, j'ai senti une gêne chez lui. Parce que, bon, il dit, oh, il plaisante, tout ça, c'est drôle et tout, mais à un moment donné, si vous voulez, je lui rendais pas. Et alors? C'est pas à lui, c'est à qui? Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de ni bien ni mal, il n'y a pas de propriété, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'anarchie. Mais oui, mais pourquoi instinctivement et naturellement, il y a des 10 commandements qui reviennent à la, comment dire, en nous. Parce que lorsque Moïse a reçu les 10 commandements pour le peuple hébreu, c'est un rappel, hein, c'est pas un enseignement de la part de Dieu. C'est inscrit dans tout être, les 10 commandements. Tout être reconnaît qu'il ne vient pas de lui-même et cherche Dieu. Tout être respecte Dieu parce que c'est le Créateur et c'est le Tout-Puissant. Deuxième commandement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu respecteras le nom de Dieu. Tu ne feras pas de serment sans considération. C'est quoi? C'est invoquer l'autorité de Dieu pour dire, moi je vais faire ça et je prends Dieu à témoin. Alors on a hésité. À invoquer comme ça le nom de Dieu pour des choses futiles, puisque Dieu nous l'interdit. Alors dans les procès, dans les disputes, dans les querelles, jurer, c'était pas rien. Surtout dans des siècles de religion. On ne jurait pas pour rien, mais on jurait devant le tribunal. On jurait pour entrer dans un métier. On prêtait serment. Et curieusement, c'est une telle loi naturelle qu'Hippocrate, qui n'était pas hébreu, lui, a composé un serment pour des médecins grecs. C'est biblique? Non. Mais c'est tellement attaché à notre nature humaine que hein, le serment d'Hippocrate. D'ailleurs, il avait fait serment de ne pratiquer aucun avortement. Donc, quand on a décidé de tuer les enfants, eh bien, on a changé le serment d'Hippocrate. On a supprimé cette ligne. Oui. Mais c'est contre nature. On ne peut pas tuer un bébé. Comme vous ne pouvez pas avorter un embryon de panda. Sinon, c'est la guerre contre la Chine. Même affaibli par le coronavirus, vous savez, ils enverront des avions. Et, ah, vous avortez une maman panda, c'est pas un incident diplomatique. Hein. C'est la folie. Oui. Eh bien, voyez-vous. Cette morale profonde, elle fait que nous aimons quelque chose ou que nous n'aimons pas quelque chose. C'est l'amour, c'est la haine. C'est le désir du bien, c'est l'aversion et la fuite du mal. C'est la joie quand on est dans le bien et c'est la tristesse quand on est dans du mal. C'est de l'espoir lorsqu'on attend le bien, c'est de l'audace et du courage pour affronter le mal présent, enfin le mal qui arrive, là pour le coup, et c'est la colère face au mal présent, c'est une énergie. La crainte et le désespoir sont des, comment dire, un bien inaccessible ou un mal qui va nous écraser. C'est presque déjà de la tristesse, de la douleur, la crainte. Mais crainte de perdre un bien, c'est l'empreinte inversée du mal, ou le mal, l'empreinte du bien. Eh bien, voyez-vous, lorsque vous êtes triste ou vous êtes joyeux, il faut toujours vous demander pourquoi. Et lorsque vous vous querellez ou que vous mettez en colère, il faut toujours vous demander pourquoi. Alors, on n'a pas le temps. En général, waouh, mais c'est pas possible, ça fait la 10e fois que tu parlais de la voiture, on devait partir, tout ça, c'est incroyable. Et tout à l'heure, j'ai failli démolir l'armoire du secrétariat, de la comptabilité, parce que quelqu'un n'a pas remis la clé dans la petite boîte, dans le tiroir. Donc, je sais pas, est-ce que c'est la comptable en partant, elle est venue hier, tout ça. Donc, je suis un peu fatigué en ce moment, un peu nerveux, tout ça, j'ai failli péter l'armoire. Et alors, il y a la secrétaire qui était là, elle dit, ah oui. Le curé, c'est un saint prêtre, mais alors, de temps en temps, c'est quand même un homme. Hein, voilà. Et donc, j'étais là, je pestais comme c'est pas possible. Parce qu'en plus, j'avais un rendez-vous, j'ai dû reculer le rendez-vous, tout ça. J'ai fini par trouver la clé, je lui ai mis une chaîne un peu lourde pour pas qu'on la perde aussi facilement que la première. Et puis voilà, et je suis parti, exaspéré. Alors, si j'étais un saint, est-ce que ça vaut la peine de se mettre dans un état pareil pour une clé perdue? Est-ce que ces pauvres portes m'ont fait quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer d'ouvrir sans la serrure? En constatant qu'il y a un pêne en haut, un pêne en bas, et que je vais finir par casser au moins la tache métallique à l'arrière de la porte. Et à quoi bon donner un coup de pied dans le bas de la porte? C'est irrationnel. Mais le mal, c'était la perte de temps et le souci de devoir retrouver la clé ou d'en refaire une, ou de forcer l'armoire pour remettre une autre serrure. C'est un mal. Vous voyez? Et donc, quand vous vous mettez en colère, quand vous vous mettrez en colère, dans 1 an, dans 5 ans, pour les préparatifs du mariage, pour l'annulation du repas, vous voyez? Sur l'assurance, est-ce que vous avez pris une assurance annulation ou pas? Vous voyez? Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Ben, moi, à votre place, hein, bon, moi je suis un juriste, hein, les juristes, c'est ceinture, bretelles, bon. Donc comme ça, on ne perd pas son pantalon. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui me fait de la peine, qu'est-ce qui m'agace? Imaginez si on tournait 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Vous voyez, vous avez envie de répondre du tac au tac à quelqu'un qui vous insulte, qui vous. Et vous faites ça. Et là, vous lui donnez une gifle. Comme ça, vous n'avez pas parlé. Mais voyez-vous, ça tient à si peu de choses, une querelle entre un époux et une épouse. Manque d'intelligence, manque de volonté, manque de force, avec des tempéraments plus ou moins inclinés à cela. Mais ça peut être la personne qui ne se met pas en colère, mais qui est triste, contrariée, et qui est rancunière, sans se mettre en colère, et qui à un moment donné fout le camp. À force d'être exaspéré, il ne crie pas, il dit rien, mais il part. Alors si c'est au coin de la rue pour aller prendre de la vapeur à la nicotine, c'est autre chose. S'il remonte. Mais il y en a qui partent et qui ne remontent jamais. Hein. Donc il dit, ah là, il y a une limite qui a été dépassée. Oui. Alors si vous regardez cette feuille magique, vous avez les tempéraments, vous avez les bilieux, hein, qu'on appelle plutôt les mélancoliques. Ceux qui se font de la bile, les atrabilaires, c'est la bile noire, vous voyez, sont mélancoliques. Ils sont un peu dépressifs, ils sont un peu tristes pour rien. Mais ce n'est pas le flegmatique qui correspond au tempérament lymphatique. C'est plutôt la lymphe que le sang. Voilà, c'est bon. Et il est flegmatique. Rien ne l'énerve. Rien l'agace, c'est indéplaçable. Voyez. Une souche. Mais les nerveux, eux, sont des colériques. Alors, c'est les synapses qui fonctionnent très bien. Vous n'avez pas pris de cannabis à 14 ans. Et sinon, le principe du cannabis bloque les synapses. Et à la fin, vous devenez con. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous concentrer. D'où l'échec scolaire quand on prend trop de cannabis. Parce que votre cerveau, il n'y a plus la transmission électrique. Et vous êtes là et vous êtes comme un bœuf. Voilà. Et au contraire, si vous n'avez jamais pris de cannabis, vous pouvez être nerveux, voire colérique, parce que tout fonctionne très bien, trop bien. Et le sanguin, alors, c'est le nerveux, le colérique. Sanguin, c'est celui qui sera plutôt, si vous voulez, calme, mais qui rumine et qui explose. Le mélancolique ne va pas exploser, le flegmatique ne va pas exploser, le nerveux, il explose tout le temps. Donc, voilà. Mais le sanguin, c'est celui qui est soupe au lait. Vous avez déjà fait chauffer du lait dans une casserole? Ça existe encore, non? Vous êtes tous au sachet au micro-ondes? Bon. Ben, si vous avez fait de la cuisine ancestrale, donc vous mettez une casserole, vous mettez du lait, et si vous mettez pas un petit truc en verre, un petit rond en verre qui empêche le lait de monter, par courant de circonvection, machin, voilà. Et donc, le lait, c'est amusant parce que ça boue, et à un moment donné, boum, ça part! Et ça déborde. Mais en une seconde, c'est le sanguin. Alors, tout cela va se mêler à l'amour, à la haine, au désir, à l'aversion, à la fuite, à la joie et la tristesse, à l'espoir, à l'audace, au courage, au désespoir, ou à la crainte triste. Et le désespoir, c'est quand un bien n'arrivera jamais. La crainte, c'est. Vous voyez, le désespoir, c'est quand vous vous dites, j'arriverai jamais à passer ce concours. Parce que c'est un bien de réussir ce concours. La crainte, c'est la crainte d'avoir un accident. C'est un mal dont vous avez peur. Eh bien, voyez-vous, ces tempéraments, vous êtes. Alors, on peut mêler les tempéraments. Il y a dominant bilieux, comment dire, récessif flegmatique. Il est mélancolique, mais enfin aussi, il est bien paresseux, le bonhomme, hein, quand même. Voilà. Il est simplement, il réfléchit, il dit voilà, vanité, des vanités, toutes les vanités. J'ai ouvert un restaurant, il n'y a plus personne. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la grève, maintenant il y a le virus. Bon, ben, je vais faire cordonnier. Hein, parce que. Oui, mais bon. Eh bien, voyez-vous, on devrait étudier d'abord les vertus avant les péchés. Qu'est-ce que la vertu? Les vertus cardinales. Il y en a quatre. Il y en a toujours eu quatre, il n'y en aura pas plus. Vous pourrez toujours lire tous les Anéagrammes et autres livres américains, anglo-saxons sur les tempéraments. Il y aura toujours simplement quatre tempéraments. Ah oui, mais je suis dominant comme ci, récessif comme ci. Ben, peut-être, mais vous serez ou mélancolique, ou sanguin, ou colérique, ou flegmatique. Pourquoi? Ben, ça fait des siècles qu'on y réfléchit. Et c'est pour vendre des livres nouveaux qu'on invente des mots nouveaux. Et alors les vertus cardinales, c'est la même chose. La prudence, c'est quoi? Ben, c'est celui qui voit à l'avance les choses arriver. Vous voyez? Et la prudence analyse les moyens et les possibilités en vue d'un but. On tient conseil dans sa tête. On veut aller à Orléans. Oui, mais il y a des cordons comment dire, on ne doit pas quitter sa ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas y aller en voiture. Les trains, il n'y en aura plus qu'un sur deux. Et encore, il y a une personne par wagon. Et en scaphandre, je sais pas. Bon. Est-ce que je vais y aller en hélicoptère? Mais je suis pas le leader suprême, donc bon. Est-ce que je vais y aller à cheval, par les champs? Une autre possibilité. Vous voyez, vous voulez acheter une écharpe aux Galeries Lafayette. Et aux Galeries Lafayette, il se trouve qu'il y a plein, plein de choix d'écharpes. Laquelle prendre? Quelle couleur? Quelle texture? Quelle matière? Vous tenez conseil. Vous voulez acheter un appartement? Est-ce que vous tenez conseil seulement seul? Bon, à deux. Est-ce que vos parents? Est-ce qu'un ami qui connaît dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Oui. Tenir conseil. C'est une vertu dépendante de la vertu de prudence de tenir conseil. Et il y a des gens qui sont d'excellents conseillers, mais qui n'arrivent pas à choisir. Et c'est la vertu de jugement, avoir du jugement, qui est le deuxième acte de la personne prudente. Le jugement, c'est de prendre le meilleur moyen. Parmi tous les moyens que vous avez discernés, il y en a un seul qui est vraiment le meilleur. Ou alors, parmi les moyens équivalents, vous prenez celui-ci parce qu'ils sont équivalents. Et vous voulez, comment dire, acheter je ne sais pas, un smartphone, vous allez voir le prix, vous allez voir sa capacité, vous allez voir la réputation de la marque. Mais à un moment donné, il va falloir l'acheter. Sinon, vous deviendriez libre. Il faut que vous achetiez un smartphone. Il faut lire vos mails. Il faut vous regarder les vidéos YouTube. Il faut que vous soyez dépendant de votre smartphone. Et donc, à un moment donné, vous dites, bon, trêve de plaisanterie, bon, j'en ai besoin. Au moins d'un. Et vous prenez celui qui vous semble le mieux. Mais ce jugement laisse place à l'acte d'acheter le smartphone, à l'acte d'acheter l'appartement. Voyez. Alors si je vous mets la prudence sur le mariage, vous tenez conseil. J'ai rencontré celle-ci, celle-là, celui-ci, celui-là. Il est comme ci, il est comme ça. Mais vous avez tenu conseil. À moins qu'il y ait le coup de foudre, ce qui arrive. Alors là, on ne tient pas conseil. Ou alors, si c'est vraiment du jour au lendemain que vous dites que vous allez vous marier, il y en a qui ça tient parfaitement. Moi, je connais quelqu'un, et ben, il a eu le coup de foudre, et il a poursuivi cette femme jusqu'au mariage, à peine un an plus tard, et ça a explosé, mais alors, ouh, extraordinaire. Mais lui était persuadé que c'était elle, dans l'instant. Alors, voilà, l'amour rend aveugle et le mariage lui redonne la vue, mais si vous voulez, la vertu de conseil, c'est vous avez réfléchi. Et les fiançailles sont faites pour ça, d'ailleurs. Moi, j'ai vu des personnes rompre des fiançailles avant le mariage. J'ai vu même des fiançailles rompues un mois avant le mariage. C'est le temps du conseil. Mais à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et de comparer les choix. Il faut choisir. Il faut estimer le meilleur moyen et le suivre. Sinon, vous êtes une personne indécise et vous êtes imprudent. Ensuite, la justice, autre vertu cardinale, qui est chez nous très très ancrée. C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Chez les enfants, la prudence, elle est légère. Ils sont là, vous avez plusieurs jouets. Si vraiment ils ne sont pas surveillés, ils prennent tout. Si vraiment on lui dit, voilà, il y en a trois, c'est un des trois que tu dois choisir, ils tiennent conseil. Ils sont là. Entre les trois jouets. Et puis, ils en prennent un. Alors, ils sont plus ou moins prudents. Ils choisissent plus ou moins bien. Par rapport à leur goût. Oh, mais leurs goûts sont simples. Mais en ce qui concerne la justice, quand ils ont pris leur jouet, c'est fini, ça leur appartient. Et s'il y en a un autre qui prend le jouet, c'est pas juste. Et ils se mettent en colère parce qu'ils sont joyeux avec leur bien. Et on leur prend leur bien, c'est un mal, ils sont tristes. Et ils se mettent en colère. Regardez comme la psychologie humaine est simple, vous vous rendez compte? Une page par rapport à des bouquins entiers. Eh bien, c'est pas juste, à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, on reprend ses esprits en général, mais voyez-vous, on est là, c'est pas juste. Ah oui, mais toi, machin, tout ça, ah tu me dis de pas fumer, toi tu fumes. Eh oui, mais je suis un adulte, et toi, t'as des poumons de 15 ans, et tes poumons vont... tout rose, vont être séchés comme du jambon, voyez, avec cette fumée. Tandis que moi, quand j'aurai les poumons déjà séchés par l'air que j'aurai respiré, toute la pollution et tout ça, je peux en rajouter une couche, hein, c'est pas grave. Voyez. Enfin, expliquer ça à un adolescent de 15 ans, il va dire Mais ce qui est juste, c'est les situations. C'est pas seulement les objets. Vous voyez. Un de vos collègues a une promotion et vous ne l'avez pas. Alors que vous vous sentez plus prudent, plus intelligent, plus décisionnaire, plus travailleur. Mais c'est pas vous qui avez eu l'augmentation ou la promotion. La vertu de justice est très forte parce que elle nous dit ce qui est juste ou injuste. Mais elle nous le dit de manière très objective. Donc, nous, pour ne pas être rancuniers, pour ne pas être trop tristes quand il y a des injustices, il faut la vertu de prudence. Et on remonte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon supérieur et je vais l'engueuler. Je vais faire un procès. Je vais démissionner. Je vais casser la gueule à celui qui a eu la promotion à ma place. Vous avez quatre moyens. Ou alors, vous mettez un mouchoir dessus et vous attendez l'année d'après. Ou alors, vous pardonnez à votre chef. Ou alors, vous dites, ah ben, tant pis, c'est pas le plus important. Je vais pas me bouffer l'estomac pour une promotion. Seulement, vous avez 28 ans et vous n'avez pas charge d'âme. Mais à 42 ans et vous avez un troisième enfant... de pas avoir 200 euros de plus par mois. Vous voyez. Et en plus, en effet, pour le bien-être de votre famille, ça peut ne pas être seulement par orgueil que vous souhaitez avoir une augmentation. Et suivant aussi le travail que vous faites. Justice. Force. Qu'est-ce que c'est la force d'âme? C'est par exemple de résister à l'injustice. C'est résister à ce qui est mauvais. Ou alors c'est résister à l'impatience. Vous avez un enfant qui est là. Maman, elle ne vient pas. Elle devait venir me chercher. Alors il y a l'institutrice, elle dit, mais t'inquiète pas, tout ça. Je ne peux pas sortir. Non, tu restes dans l'école. Hein, et les mamans sont là. Elle donne l'enfant à qui. Et là, elle dit, mais je peux pas regarder. Non, tu restes dans la salle. Et quand ta maman sera là, je t'appellerai. Oh, il n'a pas de force. C'est quoi la vertu de force? C'est de supporter. Supporter l'attente, supporter quelque chose qui est pénible. Vous voyez? Et alors, la force, vous avez l'impression que c'est ce qui met en œuvre l'audace, le courage et la colère. Vous voyez? Vous gendarmez, vous voulez vaincre l'injustice, vous voulez faire le bien, vous donner de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'agrédit. Ça donne le mot agression. Vous voyez, vous avez de la force, Vous voulez réparer ce robinet, ça fait une heure que vous n'y arrivez pas, que vous avez mis du W40, tout ça, que ça se dé machin. Mais je l'aurai. Ça fait. Vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un, vous n'arrivez pas à consoler une personne qui pleure, eh bien vous dites mais arrête de pleurer quand même, t'es pas une. T'es quoi? T'as aucun courage, tout ça, affronte la vie. Et là, vous commencez à vous mettre un peu. Mais vous faites exprès. Oui. Mais le soustinéré, ce sont les plus forts. C'est ceux qui persévèrent. Ils n'abandonnent pas. Mais c'est long. Ça ne demande pas de courage immédiat, ni d'énergie, de dynamisme ou de colère. Ça demande de la patience. Et la patience, c'est une vertu secondaire de la vertu de force. Le fort est celui qui peut aussi attendre. Et la tempérance, c'est la vertu qui calme nos cinq sens. De vouloir voir absolument un film, de vouloir absolument avoir ce parfum, de vouloir absolument écouter cette musique, de vouloir absolument manger cet aliment sucré ou salé, ce vin, ce caviar extraordinaire. Vous avez mangé des œufs de limpe et tout d'un coup on vous sert du caviar. Vous avez l'impression que c'est du velours et que l'autre c'était des grains de sel. Entre des œufs de limpe et du caviar, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui. Si le goût est si différent, et la rareté des œufs de ces poissons fait le prix du caviar. Mais si c'était vraiment dégueulasse, même si c'était rare, personne n'en achèterait. Eh bien, la tempérance vous fait vous gagner. Vous avez une bouteille de Romanée Conti, 3000 euros. Bon, c'est pas votre anniversaire, c'est simplement un repas en famille, comment dire, un dimanche après-midi, on va prendre un Côtes-du-Rhône. Mais si vous voulez, la tempérance, mais c'est actuellement la sensualité. Et alors là, on sait plus faire un film, mais en fait, les gens, ils seraient pas peinés qu'il n'y ait pas une film, un passage de sexualité dans un film. Si le film a un bon scénario, s'il a un bon rythme, c'est pas nécessaire d'avoir une scène pornographique ou une scène sexuelle dans un film. C'est une industrie. Mais notre instinct sexuel naturel est attiré naturellement. On voit une personne nue, notre instinct d'attirance qui permet le mariage, qui permet l'union sexuelle, est légitime. Et notre répulsion par rapport à une personne malade ou qui sent mauvais, c'est une sélection naturelle. C'est notre instinct qui dit, mais je ne vais pas m'accoupler à une personne qui sent mauvais, qui est difforme, enfin, voilà. Et donc l'harmonie, l'intégrité et l'éclat de la beauté font partie de notre vie humaine. C'est la raison pour laquelle vous avez des personnes à 60 ans qui partent avec leur secrétaire. Parce que leur femme est moins belle. Mais c'est profondément injuste. Et c'est un manque de tempérance. Ça, c'est sûr. Mais la tempérance, ça peut être aussi dans le fait de trop fumer. Alors, c'est pour votre nervosité, mais c'est aussi pour le goût, c'est aussi pour le geste. Vous voyez? Et alors, des vertus qui sont supérieures à la psychologie humaine et à la vertu humaine, c'est la vertu de foi, d'espérance et de charité. C'est quoi ces vertus-là? La vertu de foi, c'est de croire des choses que vous ne constatez pas, qui sont invisibles. La foi naturelle, je prends toujours le même exemple, c'est que mon grand-oncle était sapeur-pompier de Paris. Il est mort dans les années 60, je suis né en 1970, Donc, je ne l'ai jamais vu porter son uniforme, je ne l'ai jamais vu sortir de sa caserne, de Reuilly-Didrot, ou de Saint-Maur. Mon père a une ceinture avec les sapeurs-pompiers de Paris avec une boucle en cuivre, et une ceinture en large cuir noir, mais il a pu l'acheter dans une brocante. Et me faire croire que son oncle était pompier. Et pourquoi mon père me mentirait? La foi, c'est de dire, il y a eu un accident tout à l'heure sur le boulevard. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne verrez jamais les voitures accidentées. Mais pourquoi ne pas croire une amie, une personne qui vous dit, oh, il y a eu un accident sur le boulevard. C'est la foi, c'est fidèle, c'est la croire quelque chose que vous n'avez pas vu. Eh bien, la foi surnaturelle, c'est de croire que Dieu est Trinité. Vous n'avez pas vu la vie intime d'un Dieu qui se pense et qui s'exprime en un verbe éternel et qui, sans narcissisme, a un amour de contemplation et de réflexion en lui-même, le Saint-Esprit. Donc le mystère de la Sainte Trinité est appelé un mystère parce que c'est un objet de foi. La résurrection de Jésus-Christ, elle reste du domaine de la foi. Vous n'avez pas vu Jésus mourir sous vos yeux et vous ne l'avez pas vu vivant avec les grandes plaies, toutes les autres plaies, des flagellations, des coups de bâton, des coups de poing dans la tête, des coups de la couronne d'épines. Il a réparé sa peau. Mais il a gardé les traces des clous dans les mains, dans les pieds et le coup de lance. Et donc, Saint Paul nous dit qu'il y a jusqu'à 500 personnes qui l'ont vu avec ses plaies et vivant. Vous voyez ? Mais 500 personnes, ça vous invite à croire. Le suaire du Turin est impressionnant. C'est un tissu qui a 2000 ans, malgré les datations au carbone 14 qui n'ont pas tenu compte de deux incendies successifs qui ont déposé du carbone. Malgré le fait que, les échantillons, les trois échantillons, il y en a un qui a été substitué dans un des trois laboratoires. Mais ce n'est pas le problème, il y a des pollens de Terre Sainte, l'image est en trois dimensions, elle est parfaitement proportionnée, c'est incroyable. C'est-à-dire même un peintre n'aurait pas réalisé ça, parce qu'en plus il n'y a pas de pigment. Donc le bonhomme, il est allé à l'aiguille rougie à roussi, il a, pour faire roussi, pour roussir les fibres millimètre par millimètre, parce qu'en plus c'est pixelisé, hein. Comme si c'était de la lumière qui avait marqué le linge. Du rayonnement. Oui.
C'est quoi ce feu-là ?
Oui. Sauf que c'est sur un linge. Et qu'on voit tout le corps avant, derrière, d'un homme qui faisait 1,85 m environ. Et qui a les doigts rentrés, parce que les crucifiés, c'est ici, c'est pas là. Hein. En plus, si c'est un faux du Moyen-Âge. À l'époque, on représente toujours le clou au milieu de la paume, mais c'est ici parce que les os arrêtent le clou. Sinon, ça se déchire. Vous voyez ? Et les nerfs sectionnés ramènent le pouce. Eh bien, voyez-vous, tout cela, je ne peux pas vous obliger à y croire. C'est Sainte Bernadette qui a vu la Vierge Marie à Lourdes. On n'arrête pas de lui poser des questions. À un moment, elle dit « Je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous le dire. » La Vierge Marie veut qu'il y ait une chapelle ici. Elle a dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Et elle a dit qu'il fallait faire pénitence. On oublie toujours un peu. Un petit message de Lourdes là-dessus. C'est comme à Fatima, où vous avez le soleil qui s'écrase sur la terre. Comme disait Jean-Paul II, « À quoi vous servirait de savoir que les océans vont s'évaporer ?» Vivez honnêtement et dans la justice, priez. Vous voyez, Jean-Paul II estimait que donner le cœur même du secret de Fatima était trop catastrophiste. Oui, mais ça va bien arriver un jour. Hein. Saint Jean, il a vu, dans l'Apocalypse, hein, il a vu une montagne fumante tomber dans la mer. Quelle belle image pour un homme de son époque d'avoir vu une météorite tombée dans les océans. Mais elle devait être bien grosse, la météorite qu'il a vue, Saint-Jean, pour dire que c'était une montagne qui descendait vers la terre. Et boum! Hein, et ça sera beaucoup plus terrible que le virus. Quoique dans l'Apocalypse, il est parlé aussi de peste. Et peut-être qu'on est au premier trompette ou saut de l'Apocalypse. Et donc, la foi, l'espérance, ben, l'espérance, c'est de réfléchir.